Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut poser une question? Oh, il ne faut pas être impressionné, vous savez, ça. Nous cherchons tous. Si, il faut participer un petit peu. Oui. Tu tueras pas vraiment, porte le micro après.
En fait, je suis toujours frappé quand j'entends ça, parce que pourquoi opposer l'hyperbole à la sécheresse du texte, alors que les deux peuvent être tout à fait intéressants, mais comment? On peut plus bien s'installer. Il est difficile parfois de s'installer dans les haïkus, et il est plus facile parfois de s'échaler dans les textes plus longs.
Alors, vous répétez votre dernière phrase, s'il vous plaît, parce que je
me barre.
Alors, s'il vous plaît, excusez-moi. Là.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il est possible, pourquoi opposer les haïkus au texte long? Parfois, les haïkus, c'est difficile à saisir. Et parfois, les textes longs vous permettent de vous y installer et de vous, de vous immerger dans quelque chose qui est ailleurs. Bon, moi, je suis un admirateur de Victor Hugo, par exemple. On peut pas dire qu'il ne fait pas la hyperbole, et pourtant, c'est un des plus grands génies poétiques, je pense.
Oui, alors là, je parle là pour que ça enregistre. D'ailleurs, vous trouverez sur mon blog l'enregistrement de ce que nous venons de dire de cette conférence et de ce débat. Hein. Vous pouvez taper sur n'importe quelle recherche, taper mon nom, Michel Théron, et la première occurrence que vous trouvez, c'est mon blog. Donc là, je mettrai sur le blog demain ou après-demain. Alors, Jean Paulhan, pour reprendre le thème des fleurs de Tarbes, nous dit qu'il y a des périodes alternantes dans la littérature. Vous avez des périodes de rhétorique, alors vous avez tous les prestiges du verbe, et Victor Hugo fait partie des rhétoriqueurs, en quelque sorte, et puis il y a ce qu'il appelle les périodes de terreur, c'est-à-dire où on en a assez de la rhétorique. Par exemple, ça c'est cyclique, ça se reproduit constamment dans la littérature. Hein. C'est comme la systole et la diastole du cœur, ou comme une main qui s'ouvre et qui se referme. On cherche l'ombre quand on a chaud et le soleil quand on a froid. Voyez. Donc quand il y a trop de rhétorique, on va vers l'autre côté. Par exemple, à l'époque de Dubélé, il y avait un grand poète italien qui s'appelait Pétrarque, qui rhétorisait énormément. Et puis Dubélé refuse, dit-il, de pétrarquiser. J'ai oublié l'art de pétrarquiser, vous voyez. Donc, c'est alternant. Et c'est pour ça que, si vous regardez les haïkus que vous avez dans les trois panneaux du fond, à gauche, vous verrez, j'ai mis deux versions. Alors, là, j'ai mis des versions ridicules de poésie rhétorisée. Mais là-bas, par exemple, sur un coquelicot, ou bien sur un coquelicot poussant au milieu des pierres, j'ai mis un haïku, et puis j'ai mis un texte que j'ai beaucoup travaillé, qui fait penser, pour moi, à du Mallarmé. Mais j'adore Mallarmé. Hein. Donc, je pense que les deux voies sont possibles. Mais Mallarmé, lui, il était hanté par, justement, le mot lui-même, et le pouvoir du mot. Bernard, veux-tu dire? L'azur. Allez, prenez la parole.
Il est hanté par l'azur.
Ah. Oui, il est hanté par l'azur, oui, bien sûr, mais c'est le mot qui l'intéresse. Hein. Donc, moi, il n'y a pas de choix dans l'écriture, hein, mais ce qu'il y a, le propre du kitsch, c'est quoi? J'ai prononcé ce mot, le kitsch. Hein. Le kitsch, c'est une énigme, parce que c'est la boursouflure, si vous voulez. Tout ce qui est, c'est toc. Hein. Alors, En période de rhétorique vivante, à ce moment-là, je peux très bien m'exprimer avec quelque chose derrière les mots. Mais en période de rhétorique creuse, il n'y a rien derrière les mots. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, un auteur kitsch, c'est par exemple Edmond Rostand, dans Cyrano de Bergerac. Hein. Bon, regardez comme il fait regarder sa rime. Glisser de sur son cœur une longue limace. Hein, comment serait-il possible que j'aimasse, hein? Faire rimer limace avec j'aimasse, ça fait, c'est un peu problématique, vous voyez. Alors, Rostand est très populaire, mais beaucoup, le kitsch est très populaire, hein. Combien de gens ont des petites tours Eiffel miniaturisées, ou à l'inverse, des cornets de glace gigantifiés. Ça, c'est le kitsch. Le kitsch, c'est la disproportion. C'est la nanisation des grosses choses et la gigantisation des petites, vous voyez. Voilà. Alors, elle séduit toujours la rhétorique, mais vient un moment où on veut en sortir.
Oui, allez. Moi, j'avais une petite remarque, c'est que par exemple en musique, souvent les ingénieurs du son, ils ont enfin quand ils sont anglo-américains, ils ont un dicton qui signifie less is more. Ça veut dire que le plus se trouvera dans le moins. Par exemple, quand une chanteuse met de la réverbe sur sa voix, c'est bien d'avoir un peu de réverbe. Et si on en met beaucoup trop, la voix va se noyer dans cette espèce de réverbe. Donc, c'est, évidemment, c'est pas bon.
Ah, tout à fait.
Donc, voilà, c'était juste cette petite idée, moi, qui me fais un peu de musique.
Oui, Less is More, c'est bien. Ça fait penser un peu à Small is Beautiful, comme on disait autrefois. Le plus gâche tout, quand il y a trop d'effets. Hein. Ça fait quelque chose d'indigeste, comme un grand gâteau à la crème, si vous voulez, qui nous reste sur l'estomac. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, défendre la litote ou l'art du peu, hein, c'est pas à la mode. Aujourd'hui, on est à la, comment dire, dans l'inflation verbale, la publicité, par exemple. Bon, si je dis ce produit n'est pas sans intérêt, eh bien, j'aurai aucun succès. Il faudra que je dise ce produit est superbement intéressant, vous voyez. Donc, n'est pas sans intérêt. La litote, c'est réduire les signes, hein, réduire les signes. Bon, va, je ne te hais point, dit-on. S'il s'agit d'une litote, ce qui n'est pas sûr dans le texte de Corneille, hein, c'est-à-dire je t'aime. Mais quelqu'un qui dirait, qui voudrait faire de la publicité et qui utiliserait des litotes, il serait au chômage très vite, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un empilement des signes. C'est pour ça que cet art du peu. Alors. Pour les gens, ça paraît très pauvre, les haïkus, hein, très très pauvre, bon, parce qu'ils ne voient pas que quand ça réduit, comme en cuisine, quand ça réduit à la cuisson, hein, eh bien, le reste, même si c'est caramélisé, c'est bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est parfois nécessaire de réduire les signes. En quelque sorte, pour l'écriture, il y a trois phases. Un, l'idée qui nous vient. Deux, le développement. Hein, et trois, la réduction. Voilà, la cuisson, ça doit réduire à la cuisson. Et c'est comme ça que La Fontaine procédait. Vous avez ce matin parlé d'une fable, hein. La Fontaine part d'Ésope, Ésope lui donne quelques lignes, il développe, hein, et après, nous avons ses brouillons. Il réduit et il limite. Vous savez, pour écrire, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut peut-être un crayon et puis une corbeille à papier. Hein, c'est ça, hein. Donc savoir jeter, hein, raturer, hein. Moi je dis souvent littérature, hein, c'est-à-dire tu dois supprimer, élaguer.
À propos de Victor Hugo, Victor Hugo dit, mais ne fait pas toujours. Hein, par exemple, il se vante effectivement de contester la rhétorique. Son fameux acte, réponse à l'acte d'accusation, il dit « J'ai mis le bonnet rouge au vieux dictionnaire, j'ai dit au long fil d'or, mais tu n'es qu'une poire. » Mais ça, finalement, il envoie vite la limite, parce que dans notre poème, il nous dit « Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. » Il a compris que nous dire « Une eau qui bout dans un pot trop plein », eh ben, ça n'irait pas non plus. Donc, il y a un moment où il sent quand même la nécessité de revenir un peu à la rhétorique. Moi, j'adore Victor Hugo, hein. Et je l'adore précisément parce qu'il est fait un peu de rhétorique. Quand il est trop plat, il ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà.
Oui, Hugo, on demandait à Gide quel est le plus grand poète de langue française. Il répondit Victor Hugo, hélas. Hein. Mais il a regretté son hélas. Parce que Hugo, il a des textes, des passages à aura, hein, mais il a des textes qui n'ont aucune aura. Hein. Par exemple, dans Les Pauvres Gens, ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait ses études. Bon, si vous trouvez de l'aura là-dessus, du décollage, moi je sais pas. Hein, à ce moment-là, le métro serait poète. Hein, le train ne peut partir que les portes fermées. Voilà. Hein, donc c'est un bel Alexandrin. Hein, mais donc c'est important ce thème de l'aura. Mais pour reprendre l'exemple d'Apollinaire, il peut y avoir du prosaïsme à certains moments, mais après ça décolle. C'est ça qui est passionnant. Donc l'œuvre elle est polytonale, elle a plusieurs tons, plusieurs tonalités. Hein. Donc c'est pas parce que vous aurez un passage prosaïque que ça sera totalement prosaïque. Vous voyez hein. Est-ce qu'il y a un autre question? Je veux pas déborder.
Puis dans un texte de Toisson, le prosaïque parfois est nécessaire pour pouvoir justement assortir, quoi. C'est le passage nécessaire pour pouvoir permettre de décrire ce qui ne veut plus être ce prosaïque.
Oui, bien sûr. Mais, par exemple, Vigny, hein, tranquille cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux. Bon, c'est de la prose versifiée, ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... Mais pour beaucoup, c'est difficile, c'est une énigme. Hein. Et même le kitsch, c'est une énigme. J'ai fait des émissions à la radio où j'interviens toutes les semaines là, sur le kitsch. On peut trouver des chansons d'amour kitsch hein, quand on est froid, hein. Hein. Mais quand on est émotionnellement habité, alors à ce moment-là, on ne les trouve pas kitsch. Hein. Par exemple, vous avez vu peut-être le film de Truffaut, La femme d'à côté. Vous savez que Fanny Ardant, lorsqu'elle fait sa dépression, eh bien, elle est en clinique psychiatrique et elle a un transistor au côté d'elle. Et lorsque Depardieu vient la voir, elle lui dit, j'écoute seulement les chansons d'amour, plus elles sont bêtes, plus je les écoute, et d'ailleurs, elles ne sont pas bêtes du tout. Elles disent toujours, ne me quitte pas, je suis une maison vide sans toi, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, sans amour, on n'est rien du tout. Alors, quand on est froid, c'est kitsch, mais quand on est amoureux, c'est pas kitsch, c'est juste. Non, c'est une énigme, ce problème du kitsch, vous voyez. Donc, dans mon cours à Nippocagne, au lycée Joffre, je parlais très souvent du kitsch, hein, Lamartine, Vigny, etc. Au point qu'à la fin de l'année, il m'avait offert un magnifique petit nain de jardin, hein, que j'ai encore. Voilà. Bon, les nains de jardin, évidemment, adhérons au FLNJ, au Front de Libération des Nains de Jardin. Voilà, hein, bon. Mais après tout. Hein. Donc je crois qu'on peut conclure sur ce scepticisme. Oui, bien sûr, c'est passé.
Coucou. Vous avez parlé tout à l'heure de l'époque dans laquelle on était, en disant c'est une époque, je crois, ce que vous avez dit à peu près, de la prolifération du signe, de l'exagération, etc. L'inflation. Voilà, l'inflation. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce constat de l'époque actuelle. Je la vois, moi, tout à fait différemment. Je pense qu'on est dans une époque extrêmement particulière dans la mesure où on a fait grosso modo le tour de la Terre et décelé à peu près tous les peuples qui habitent sur la Terre. Il y en a quelques-uns qui restent encore non abordés, tels que les Andamans et quelques autres qui se comptent par une population d'une poignée de personnes, 20 ou 30 personnes par exemple. Mais bon, grosso modo, on a fait le tour de la Terre maintenant, à l'époque 20e, 21e siècle, on a fini ce tour de la Terre. Alors, vous avez parlé, c'était très intéressant, diastole, systole, ces temps liés à l'évolution de la langue, je préfère dire la langue pour le moment que la poésie. Mais justement, il se trouve que j'ai travaillé sur les rythmes astro de l'évolution de la langue, en particulier dans le champ dit poétique, et en particulier dans le champ de la langue française pour avoir un ensemble cohérent. Et je me suis rendu compte que cette évolution... Grosso modo, pour ces grandes vagues et ces grandes structures étaient liées au cycle de 135 ans d'Uranus-Neptune. Uranus-Neptune se retrouvant en conjonction tous les 135 ou 165 ans. 165, je crois. Voilà. Et alors, c'est intéressant si on regarde par rapport à ça Victor Hugo, qui arrive en quelque sorte en fin de ce cycle-là, et puis on arrive à 1821, qui est la période où Uranus rejoint Neptune, et à ce moment-là, dans la langue française toujours, il y a un poète capital qui s'appelle Baudelaire. Et puis, un demi-pas après, c'est-à-dire quand Uranus et Neptune sont en semi-sextile, pas encore en aspect, mais ils sont à 30 degrés l'un de l'autre. Il y a un poète fulgurant qui naît, qui est un pur visionnaire, et il s'appelle Arthur Rimbaud. Et Arthur Rimbaud, à un moment, dit quelque chose de capital. Il dit « Baudelaire est le premier voyant ». Alors, c'est pas le premier voyant de l'histoire, l'histoire humaine, elle est très longue, hein, mais c'est le premier voyant du cycle. Et Baudelaire, qui est une incarnation de l'intuition, Rimbaud, qui est une incarnation de l'intuition et de la vision, capte ce cycle. Il n'a pas, lui, travaillé sur ces cycles. Mais il capte quelque chose d'essentiel. Il s'intéresse moins, d'ailleurs, à Victor Hugo, qui trouve un peu trop encombré, trop de vieilles colonnes, etc. Sur un coup, je suis assez d'accord. Il est un peu encombré, Victor Hugo. Même si c'est un beau visionnaire, etc. Mais bon. Alors, je reviens maintenant à l'époque actuelle. Il se trouve que le renouvellement de ce cycle, d'Uranus-Neptune, donc de la façon d'aborder la langue, s'est opéré en 1993. J'ai donc prédit qu'en 1993, il y avait un nouveau Baudelaire qui était né quelque part et qui, bien sûr, allait être révélé après, probablement quand il serait mort ou en fin de vie, gâteux ou je ne sais quoi, étant donné que l'état de l'édition et de la diffusion dans notre tout pays est absolument lamentable, puisque c'est complètement contrôlé par les puissances d'argent et que ça met en avant des schtroumpfs comme Houellebecq, par exemple, qui, paraît-il, passe pour un poète. Voilà, enfin, des gens inintéressants, quoi. Mais ça veut dire qu'on est au tout début d'un nouveau cycle. On est à 32 ans après. Voilà. C'est-à-dire que si le même schéma se reproduisait, mais je ne crois pas qu'il ne soit pas à se reproduire, il y aurait maintenant, là, ces années-ci, vraiment un nouveau Rimbaud qui va naître. Et donc, pour revenir à l'époque actuelle, je trouve qu'il y a toutes les vitesses. Tous les peuples de l'humanité sont repérés. Toutes les vitesses sont là. Tous les langages, y compris dans la publicité, sont là. Et, par exemple, j'ai connu Christian Bernhardt, qui a introduit les brainstorming en France, et la marque Peugeot lui avait demandé de travailler, parce que Peugeot avait fait une publicité très avantageuse, qui était tombée à plat. Et justement, il s'est rendu compte que c'est parce qu'elle était très avantageuse qu'elle est tombée à plat. Et ils sont revenus dans une publicité très retenue. Hein? Donc je crois que le sens de l'époque actuelle, ou l'un des sens, parce que bien sûr, il y a des millions de façons de le voir, donc la vôtre est peut-être aussi valable que la mienne, mais l'un des sens de l'époque actuelle, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi maintenant, tous les styles se côtoient, il y a même des pseudo-classiques, des faux classiques, des vieux classiques, des vrais révolutionnaires, des vrais inspirés, il y a de tout, et c'est ça qui est exaltant, parce que le tout retourne au tout.
Oui, s'agissant de Houellebecq, il ne fait que reprendre Huysmans. Hein. Huysmans est un grand auteur, Joris Karl Huysmans, de la fin du XIXe siècle. Hein. Donc, les diatribes sur la décadence de l'Occident. D'ailleurs, je crois qu'il le cite lui-même. Et l'absence de valeur de l'Occident, le consumérisme, etc. Il me semble que l'époque moderne, elle est ludique, festive, et pour elle, la vacance des valeurs n'empêche pas la valeur des vacances. Vous comprenez, hein? Donc, il faut toujours se distraire. Bon, sur l'astrologie, je ne suis pas compétent. Je ne peux pas vous dire. Hein, c'est quelque chose qui me dépasse, hein, au sens propre, par-dessus la tête. Hein, je ne peux pas vous dire. Je maintiens qu'il y a ce double rythme. Hein, tantôt rhétorisé, tantôt terroriste, pour reprendre le texte de Poulain. Alors voilà, le texte de cette conférence sera sur mon blog, l'enregistrement aussi, ainsi que vos interventions. Et puis, si vous voulez prendre connaissance de tout ce que je fais, vous tapez mon nom sur Google, n'importe quel moteur de recherche, et vous tombez justement sur tout ce qui me caractérise, dont les émissions de radio. Elles sont aussi sur mon blog. Hein. Tout ça, je vous laisse le soin de le faire. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et à bientôt.